l'accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour et bienvenue sur Accent. Et nous partons d'abord à Calais, où le démantèlement de la jungle est imminent. Les quelques 9000 réfugiés présents sont totalement perdus. Que vont-ils devenir? Une question encore plus pressante concernant les mineurs isolés. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a fait sauter un premier verrou. Dès aujourd'hui, 40 migrants mineurs ayant des proches au Royaume-Uni seront transférés. Car actuellement, selon les associations, ils sont 1300. De jeunes Afghans, Soudanais ou encore Érythréens, particulièrement vulnérables dans cette jungle dangereuse. Et c'est le reportage d'Alice Pozicki.
Dans une grande cabane en bois appelée le Café des Enfants, une vingtaine d'adolescents écoutent de la musique, affalés sur de vieux canapés en cuir. 5 jeunes Afghans disputent une partie de billard. Wassil Jawad porte un t-shirt trop grand pour lui. Il a 13 ans et vient du nord-est de l'Afghanistan, où vivent encore ses parents, son petit frère et sa petite sœur.
En Afghanistan, nous n'étions pas en sécurité. Alors ma famille a organisé mon départ vers l'Europe. Ils ont tout payé et n'ont pas eu assez d'argent pour venir en Europe. Je suis arrivé seul.
Wassil a donc parcouru seul plus de 7000 kilomètres. Le jeune garçon a traversé le Pakistan, l'Iran, la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l'Italie, pour enfin arriver en France, à Calais, où il vit depuis maintenant 4 mois.
Mes débuts dans la jungle ont été très difficiles. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait un endroit comme ça en France. Quand je suis arrivé, je ne connaissais personne, je n'ai trouvé nulle part où dormir. Après un moment, j'ai fait la connaissance de plusieurs garçons et j'ai trouvé une tente où je suis resté.
4 mois après son arrivée, Wassil vit toujours sous une tente, une simple toile qui ne protège ni du froid, ni des adultes.
Vous savez, ici à Calais, il y a des gens qui embêtent les enfants pendant la nuit. Ils pénètrent dans certaines tentes et malheureusement, ça m'est arrivé. Ça s'est passé il y a environ une semaine. J'étais avec un ami dans ma tente et des garçons qui avaient le visage caché nous ont attaqués. Ils étaient 3. Heureusement, mon ami ne dormait pas encore. Il a crié, des gens sont arrivés et les agresseurs ont pris la fuite.
Dans le Café des Enfants, la télé projette un film un peu daté, sous-titré en anglais. Une bénévole qui souhaite rester anonyme discute avec un adolescent. Face à la détresse de certains de ces mineurs isolés, cette Anglaise parfaitement francophone a décidé d'agir. Elle héberge actuellement 3 enfants chez elle.
Il y a des enfants qui sont vraiment en danger. Et il y a des enfants qui dépriment de jour en jour. Et puis la seule solution, en fait, c'est de les sortir un peu, de changer un peu les idées. Et en fait, il y a d'autres qui sont vraiment, vraiment en danger. Je ne peux pas dormir si je sais qu'ils sont ici et puis ils risquent d'être agressés ou que je revienne le lendemain et puis l'enfant a disparu, ou que l'enfant a été tabassé, que l'enfant a été violé. Voilà. C'est pour ça que certains que je sais, ils sont vraiment en danger, oui. S'il n'y a pas d'autre solution, oui. Je fais ce que j'aimerais que quelqu'un fait avec mes enfants s'ils sont en danger aussi.
Pourtant, des solutions existent pour ces mineurs isolés. Une fois l'asile obtenu en France, ceux qui ont de la famille au Royaume-Uni peuvent bénéficier d'un regroupement familial. Et dans tous les cas, l'enfant peut être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Mais cela prend du temps, trop de temps, regrette Pascal Duval, éducateur spécialisé chez Médecins Sans Frontières.
C'est complètement bouché, les dispositifs sont saturés. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai une quinzaine de jeunes qui demandent à partir, et ce depuis 2-3 semaines, et qui reviennent chaque jour. Et on sait que voilà, si un jeune vient aujourd'hui, il partira peut-être dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois.
Wassil ne souhaite pas rester en France. Pourtant, s'il était pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant ses 15 ans, il pourrait facilement obtenir la nationalité française. Mais le jeune garçon parle couramment l'anglais et certains de ses proches habitent à Londres. Alors tous les soirs, Wassil essaie de grimper dans les camions pour passer en Angleterre. Il prend les mêmes risques que les adultes.
Mais ce soir, il n'y a pas d'espoir et il n'y a pas de doute, non. Il pleut sur Knokke-le-Zoute.
C'est l'autre sujet d'inquiétude en Europe, le réchauffement climatique. Eh bien, la Belgique, elle, a une solution plutôt originale. Elle envisage de se faire construire une île située au large de la station balnéaire UP de Knokheist, en mer du Nord, à la frontière avec les Pays-Bas, l'Aix-Milota.
N'en déplaise à Jacques Brel, qui chantait « Ce soir, il pleut sur Knok le Zout », la station balnéaire est très prisée des touristes. Avec sa grande plage, son casino, ses voitures et magasins de luxe, Knokheist est réputé pour son côté chic. Face à la mer, les touristes pourraient bientôt voir une île. C'est une société flamande privée qui en a eu l'idée pour protéger la destination de la montée des eaux et des tempêtes prévues ces 100 prochaines années à cause du réchauffement climatique. Une île rempart, une île artificielle pour sauvegarder la plage jusqu'à l'année 2100 au moins. Pour savoir si ce projet est réalisable, la région Flandre a débloqué 8 millions d'euros. Une étude va être menée pour vérifier qu'une île peut bien stopper l'érosion prévue. Le ministre flamand du Tourisme a donné quelques détails. La construction va démarrer en 2020 avec un îlot de 40 hectares dans un premier temps. La surface atteindra 450 hectares à terme et pourrait aussi servir de refuge aux animaux marins ou de port. 6 km de longueur, à 1200 mètres des côtes, autant dire que l'île ne passera pas inaperçue dans le paysage. Certains habitants regrettent de ne pas avoir été concertés pour ce projet et craignent que leur littoral préféré ne soit enlaidi. I eat my sandwiches on the train and I feel
like Jeremy Corbyn. Réélu à la tête du Labour au Royaume-Uni, Jeremy Corbyn n'en a pas terminé avec sa fronde interne. Le controversé leader est certes plébiscité par les militants, ils ont été 61,8% à voter pour lui, mais les députés travaillistes, eux, le trouvent trop à gauche pour être à la tête du principal parti d'opposition. Si l'heure est officiellement à l'unité, les sympathisants du Labour se divisent. Reportage Marie Billon. I'm therefore conference delighted to declare Jeremy Corbyn elected
as leader of the Labour Party. Please. C'est un accueil triomphal que Jeremy Corbyn a reçu de la part des militants lors de sa réélection le mois dernier. Dans son tout premier discours, il a voulu tendre la main à ceux qui non seulement n'ont pas voté pour lui, mais qui ont aussi voulu le renverser. Prenant la défaite du Brexit, le Labour était pour le maintien dans l'UE comme une occasion pour organiser une rébellion. We have much
more in common. Nous avons beaucoup plus de points communs que de sujets de division. Je vous propose de faire table rase du passé dès aujourd'hui et de nous atteler ensemble à la tâche qui attend notre parti.
Au début, les parlementaires travaillistes semblaient vouloir se faire une raison. Ils attendaient de pied ferme la formation du gouvernement fantôme de Jeremy Corbyn pour voir s'il allait vraiment pratiquer l'ouverture, s'entourer des hommes et des femmes qui sont moins à gauche que lui au nom de l'unité du parti. Il a effectivement fait appel à certains des députés qui l'ont critiqué ou qui ont participé au coup monté contre lui en juin dernier. Jo Stevens est l'une d'elles, elle est désormais ministre fantôme du Pays de Galles. Mais Jeremy Corbyn a aussi démis de ses fonctions la députée en charge de la discipline du parti, la chief whip Rosie Winterton, une décision critiquée en coulisses, mais officiellement, la discipline de parti n'est pas encore morte. Jo Stevens s'exprimait ainsi sur la BBC. Do you think there was compromise when he sacked Rosie
Winterton as chief whip? I'm very sad about Rosie going. Même si je suis très attristée par le départ de Rosie, je préfère voir les choses autrement. Parmi ceux qui ont été nommés au gouvernement fantôme, Keir Starmer soutenait l'opposant à Jeremy Corbyn, Owen Smith, Nia Griffiths et moi aussi. Il a donc fait des compromis, il a tendu le rameau d'olivier, mais il y a encore beaucoup à faire.
Les trois postes les plus importants, l'économie, la défense et l'intérieur, sont désormais entre les mains de trois personnes très proches de Jeremy Corbyn, ce qui n'était pas le cas avant la vague de démission du début de l'été. Pour beaucoup, cela signifie que le leader est en train de forcer son parti à la soumission, comme l'ont dit certains médias. Mais il n'y a pas que son positionnement très à gauche qui déplaît aux parlementaires travaillistes. Beaucoup trouvent qu'il n'a pas la carrure d'un meneur, comme l'a redit à la presse Owen Smith, le perdant de ces élections internes.
Je crois que nous courons toujours le risque de paraître sourds au reste du pays, de ne pas être vu comme une opposition capable de prendre les rênes du gouvernement. Jeremy a remporté les voix du parti, il doit maintenant obtenir celle du pays tout entier. Ce sera beaucoup plus dur et ça demandera beaucoup plus de temps.
Si une sécession de l'aile centre-gauche semble désormais écartée, Jeremy Corbyn divise toujours les opinions dans le parti et même au-delà. Il suscite des disputes dans les foyers et des tensions entre amis, comme Rachel et Caroline, qui se connaissent depuis plus de 10 ans.
Hi Caroline.
Hi Rachel.
How are you?
Good to see you. I'm looking forward to this.
Me too.
Good. Yeah.
My name is Rachel. I am a lecturer.
Je m'appelle Rachel. Je suis professeure d'art dramatique. J'ai 48 ans. Je soutiens le Parti travailliste depuis ma vingtaine. J'ai grandi dans une famille proche du Parti conservateur, mais j'ai été membre du Labour pendant 10 ans. Je l'ai quitté cet été. Je ne suis pas satisfaite de la direction que prend le parti. Tant que Jeremy Corbyn en est le leader, je ne voterai plus travailliste. Mais je pourrais à nouveau y réfléchir s'il quitte ses fonctions.
Je m'appelle Caroline. Je suis directrice d'une agence de communication spécialisée dans les nouvelles technologies. J'ai 49 ans. J'ai toujours soutenu le Parti travailliste et j'en suis membre depuis longtemps. Je ne l'ai pas quitté car je crois qu'il faut rester et continuer à se battre. Et j'ai voté pour Jeremy Corbyn lors des deux dernières élections internes.
Les soirées entre copines de Rachel et Caroline finissent souvent en dispute ces derniers temps, comme ce soir autour d'un verre dans un pub de leur quartier du nord de Londres. Au bout de quelques minutes de conversation plaisante, l'actualité politique s'invite et Jeremy Corbyn ne tarde pas à en être le centre.
Ce n'est pas un leader fort, il ne sait pas rassembler ses troupes parce que c'est un activiste, pas un politique. Et il n'a aucun charisme.
Oui, mais après tu as des gens comme David Cameron qui savent toujours quoi dire, qui a été briefé par ses communicants au cas où on lui demanderait quelle musique il aime. Coldplay, c'est bien, non, ça va si j'aime Coldplay. Et puis quand on pose la même question à Corbyn, il dit qu'il écoute Beethoven et on se moque de lui. Mais au moins c'est la vérité. Pourquoi tu vas encore te faire avoir par le charisme de ces enfoirés?
Caroline et Rachel restent des militantes de gauche et finissent toujours par se réconcilier à la fin de la soirée. Il y a trop de gens avec qui rester fâchés à droite ou parmi ceux qui ont voté pour le Brexit, plaisante-t-elle. Mais surtout, elle partage une même inquiétude pour le Parti travailliste.
Le problème, c'est que Corbyn ne sera jamais élu. Et Caroline a déjà avoué que c'était vrai. Quel intérêt de soutenir quelqu'un qui n'a aucune chance de devenir Premier ministre? C'est juste de la contestation.
Oui, mais est-ce que Donald Trump peut être élu? Il y a 3 ans, si on avait posé cette question, tout le monde aurait dit non. Et aujourd'hui, on se réveille tous en sueur, effrayés à l'idée que ce bouffon pourrait être élu à la tête de la nation la plus puissante du monde.
Les deux amis préfèrent s'arrêter là, mais cela pourrait durer des heures et ça risque fort de continuer tant que Jeremy Corbyn sera à la tête du Parti travailliste dans ce pub de quartier, mais aussi dans bien d'autres encore à travers tout le pays.
Sense memory that's so passé. Is that what passes for vision these days? I engineer no strangeness. I don't have that modern streak.
C'est l'histoire d'un jeune étudiant grec, Nikos, qui revient pendant ses vacances dans son quartier d'enfance où son oncle et sa tante tiennent un bistrot anarchiste. Nous sommes à Exarchéia, Athènes, bastion des anarchistes donc et de la résistance à la crise économique et sociale. Dimitrios Mastoros et Nicolas Vouters ont choisi la BD pour raconter cette crise sociale à travers les yeux de Nikos, donc de son meilleur ami et d'un chien handicapé. Et Nicolas Vouters, le scénariste, explique pourquoi.
La bande dessinée m'a joui depuis quelques années de toute une vague de récits qui viennent plutôt du documentaire, du journalisme, et on avait envie de s'inscrire là-dedans, mais à notre manière. Dimitri a beaucoup cherché une technique qui allait lui permettre de rendre compte à la fois de la lumière écrasante du quartier et en même temps de la dureté qu'il pouvait aussi y avoir. Et c'est pas tout à fait du noir et blanc, c'est du brou de noix, comme on appelle ça, c'est de la noix pilée, et qui donne des tons allant du brun clair au brun très foncé, qui peut donner l'impression d'un noir.
Alors, vous avez choisi de raconter le quartier d'Exarchéia à Athènes, un quartier très particulier, qui est symbole de toutes les contestations.
Oui, c'est vraiment ça qui nous a intéressé dans le quartier d'Exarchéia, c'est qu'il cristallisait énormément d'enjeux qu'on trouvait particulièrement pertinents à l'heure actuelle. C'est-à-dire que Exarchéia, c'est un point de croisement entre plein de choses, et en même temps, c'est un peu comme une forteresse. C'est un lieu à l'intérieur d'Athènes, un quartier qui est pratiquement autogéré, où la police ne met peu ou pas les pieds, ou quand ils le font, ça donne lieu à des émeutes assez régulières d'ailleurs. Et c'est un lieu qui a été pendant très longtemps et qui l'est toujours un des bastions de la résistance contre l'autorité, quelle qu'elle soit. Donc, groupement anarchiste, mais aussi, qui dit liberté plus grande, dit aussi des gens marginalisés qui viennent chercher un lieu un petit peu en dehors, Tout en étant en plein centre, puisque Exarchia est vraiment au beau milieu d'Athènes.
On est très très loin de la capitale grecque touristique.
Oui, tout à fait. Et pourtant, on le souligne pas tellement, mais les guides touristiques renseignent Exarchia comme un lieu exotique à aller visiter. Mais je pense que les gens qui les traversent n'ont pas tout à fait conscience. Ils voient des graffitis sur les murs, ils voient certaines têtes cassées au coin des rues. Ils n'ont pas forcément conscience de tout ce qui est en train de s'y jouer. C'est aussi ça qu'on voulait faire, c'était prendre le temps de se poser et vraiment de comprendre en quoi ce quartier était vraiment particulier.
Alors on suit les aventures du jeune étudiant Nikos, ses déambulations avec son ami d'enfance, Tsibis, dans le quartier. Et c'est Tsibis qui va essayer d'embarquer Nikos dans ses luttes. C'est comme ça qu'on se rend compte de l'actualité très chaude en Grèce.
Notre personnage principal, qui s'appelle Nikos, est un jeune qui est au courant des choses, mais qui n'est pas forcément investi dans une voie particulière, qui a grandi en Grèce, mais qui est parti vivre assez tôt en Belgique, vers ses 13-14 ans, et qui revient pour aller faire des vacances. Et lui... vit justement, comme je disais avant, vit ce quartier comme un lieu un peu exotique et agréable. Il va se poser une soirée, rencontrer son oncle, sa tante qui habite là, et puis partir vers les îles pour prendre du bon temps. Et étant quand même curieux ou ouvert d'une certaine manière, il va se faire happer par le quartier, par premièrement le biais de cet ami d'enfance qui, lui, est quelqu'un un peu plus âgé que lui, qui est engagé, un vrai engagé, on va dire, qui dévoue vraiment son quotidien à l'engagement. Et au moment où Nikos arrive dans le quartier, son ami Tsibis est en train de coordonner un parc citoyen qui existe, d'ailleurs qu'on peut visiter, qui était un ancien parking. Et un jour, les habitants en ont eu marre. L'anecdote raconte qu'un matin, ils ont trouvé une vieille dame avec son déambulateur en train de casser le béton. Et ils se sont dit, mais c'est une super bonne idée, on va casser le béton qui est là, on va faire un parc. Et donc cet ami Tsibis, il est investi dans ce projet-là et propose à Nikos de venir lui donner un coup de main, quoi.
Et d'ailleurs, l'engagement pour Nikos, c'est un vrai questionnement.
Je pense que c'est quelque chose de très propre à notre génération. C'est-à-dire qu'on est très conscient de toutes les luttes via les médias, via les réseaux sociaux, mais on a peut-être perdu la notion de ce qu'était vraiment lutter et vraiment s'engager. À Exarchia, ces gens vivent avec ça dans leur ventre, en fait. C'est vraiment leur identité. Et pour nous, écrire ce livre, c'est aussi un acte d'engagement.
Alors voilà pour l'engagement citoyen, mais en même temps, Nico se rend très vite compte de la réalité de la crise, notamment à travers le café qui est tenu par son oncle et sa tante, un café qui périclite totalement.
Oui, c'est ça. Périclite, pas par manque de clientèle, parce que étrangement, si on se promène à Athènes aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de cafés qu'avant. Je crois que les Athéniens aiment bien dire que malgré la crise, ils n'ont jamais autant été dans les cafés. Par contre, le café qui nous occupe dans l'histoire, effectivement, périclite parce que l'oncle est aux prises avec un problème qu'il n'arrive pas à résoudre. C'est-à-dire qu'il y a des migrants qui se sont installés dans un bâtiment qu'il possède, et à Exarchia, on n'appelle pas la police et il ne sait pas comment les faire sortir. Et il a besoin de l'argent pour pouvoir entretenir son café. Et ils veulent pas expulser de force les migrants, ils ne savent pas quoi faire, et c'est là que notre personnage va se dire, tiens, peut-être que moi je vais réussir à dialoguer avec eux, à trouver une solution.
Alors il y a un autre personnage, plutôt un animal qu'on suit, c'est ce fameux chien qui est paralysé des pattes arrière, qui est harnaché d'une petite carriole avec les petites, le chien à roulette. Alors est-ce que c'est un symbole, ce chien qui finit mal à la fin?
Oui, ce chien en fait a existé, donc il y en a eu plusieurs, des chiens anarchistes. Ce chien-là est un chien qui ne supporte pas la police et l'autorité, comme les habitants d'Exarchia.
Il n'aime pas les uniformes.
Il n'aime pas les uniformes, pas du tout. Il a tendance à aboyer. Et suite à une maladie, il a perdu l'usage de ses pattes arrière et on l'a mis sur roulette, en fait. Et ce chien a existé. Le chien à roulette était une des figures canines de la lutte anarchiste à Exarchia. Et au-delà de ça, on trouvait que c'était un personnage intéressant parce qu'il dit quelque chose sur le quartier. Et il parle vraiment aussi de cette capacité de résilience que les habitants ont, et même les animaux l'adoptent au bout d'un moment. Il représente à nos yeux, en tout cas, un peu cette âme qui veille et qui plane sur le quartier.
Exarchia, Laurent Jamère, une BD donc de Nicolas Wouters et Dimitri Mastoros, et c'est publié chez Futuropolis. Accent, c'est déjà fini. À la réalisation, Françoise Grelot et Jérémy Bessé. Retrouvez-nous sur RFI.fr ou sur Facebook et restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans quelques instants, les infos.